Il est grand, puissant, glorieux. Amen. On peut prier ensemble. Alléluia, Papa. Ben, je te remercie vraiment pour ce temps, pour la joie d'être réunis autour de toi, pour ta présence au milieu de nous. C'est vraiment une grâce d'être tes enfants, de t'appartenir, de pouvoir grandir, de savoir qu'on grandit dans ta présence, que tu veux grandir au milieu de nous, dans nos vies, dans nos pensées, dans nos âmes. Grandir au milieu, dans notre église, grandir dans nos villes, grandir dans notre nation. Merci pour tous les projets que tu as. Merci que tu es un Dieu qui va de l'avant. Merci que tu n'es jamais assis statiquement. Tu es assis en signe d'autorité, mais tu es aussi un Dieu qui va de l'avant et qui gagne du terrain et nous te louons. Nous t'adorons, Seigneur. Nous élevons ton nom, nous te bénissons. Nous célébrons ton nom parce que tu en es digne. Amen. Alléluia. J'aimerais parler de trois choses. Alors, vous savez que le Seigneur nous a appelés à aller à faire des nations de toutes les nations, des disciples. Alors, il y a une chose que j'avais envie d'étudier, qui me parlait, c'était les différents groupes de disciples auxquels le Seigneur s'est adressé. Vous savez que il y a eu différentes façons de Jésus de se révéler, et on pourrait penser d'abord parler d'un premier groupe. On va dire c'est la foule des disciples. Si on prend dans Jean 4, 1, vous savez que Jésus, il baptisait. On a eu les baptêmes la semaine dernière, mais Jésus a baptisé. Enfin, en tout cas, les disciples qui étaient avec Jésus, parce qu'il y a marqué « Jésus baptisait ». Et en fait, finalement, la Bible dit que ce n'est pas Jésus qui baptisait, ce sont ses disciples. Ça veut dire que quand la Bible elle estime que quand les disciples baptisaient, c'est comme si Jésus baptisait, mais que Jésus faisait des baptêmes. Et il baptisait beaucoup de disciples. Même il faisait plus de disciples que Jean. C'est intéressant, moi ça m'a déjà parlé. Et si on prend dans Luc 19, 37, le verset nous parle de la multitude des disciples. Quand Jésus est rentré dans Jérusalem, il y avait une multitude de disciples. Donc on parle souvent des 12 disciples, mais en fait il y avait une multitude de disciples. Jésus avait baptisé un grand nombre, une foule de disciples, une foule de personnes avaient reçu le Seigneur, avaient cru en lui, avaient reconnu en lui le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu qui était venu et avaient mis leur foi en lui. Ils avaient une certaine révélation de Jésus. Ils avaient reconnu qu'il y avait quelque chose de Jésus en Jésus qui était de Dieu et ils l'avaient cru, ils l'avaient reçu. Ils avaient reconnu leur Messie, leur Machia. Et on lit un verset un peu triste dans Jean 6, 66. Ils étaient très nombreux, mais à partir d'un moment donné, Jésus a dit des paroles qui ont heurté ces disciples-là, qui pourtant s'étaient convertis, qui étaient devenus enfants de Dieu. Et il marque, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ne voulurent plus aller avec lui. Donc il y avait une certaine révélation de Jésus, ils avaient reçu Jésus, ils étaient une foule, et pourtant parmi eux, certains se sont retirés. Ensuite, il y a eu un groupe de 500. 1 Corinthiens 15, 6, donc ça c'est une fois que Jésus était monté au ciel, juste avant qu'il monte au ciel, 1 Corinthiens 15, 6, Paul nous dit une chose, il nous dit, il est apparu à Céphas, puis aux 12, et ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, dont quelques-uns sont morts. Donc il est apparu à une personne, Céphas, puis aux 12, puis à 500. On voit qu'il y a comme une vague, hein, une, puis 12, puis 500. Et ces 500, ils ont vu Jésus ressuscité. Ils ont une révélation de Jésus qui était mort et qui est ressuscité. Une autre révélation. Ensuite, on peut encore voir qu'il y a un autre groupe de disciples. On descend cette fois, hein, je rétrécis le nombre, on est parti d'une foule. Il y en a eu 500, maintenant il y en a 70. Luc 10. Après cela, donc le Seigneur a une foule de disciples autour de lui, on ne sait pas entièrement, mais on peut estimer même que peut-être 5000, hein, puisque là, à un moment donné, il a nourri 5000 personnes, on peut estimer que c'était des disciples. Le Seigneur désignait encore 70 autres disciples. Il appelle 70 de ses disciples. Donc il a reconnu chez eux quelque chose de particulier. Il y a eu un cœur de serviteur, il y a eu quelque chose de la maturité en Christ qui était là. Et il les a estimés qu'ils étaient prêts à un service particulier. Et il les a envoyés deux à deux devant lui dans toutes les villes. et dans tous les lieux où lui-même devait aller par la suite. Donc ils ont préparé le terrain du Seigneur. Alors bien sûr, ce sont ces 70, ils ont été, ils ont chassé les démons, ils sont revenus, ils ont dit, on a vu Jésus, que le Satan lui-même était, nous était sous, le monde des ténèbres nous était soumis, le Satan nous était soumis. Et Jésus leur dit, mais oui, c'est vrai, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais surtout, réjouissez-vous que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Une autre révélation, la révélation de l'autorité que Jésus a contre le monde des ténèbres, et cette autorité leur appartient, qu'ils pouvaient exercer cette autorité. Une autorité, une révélation de savoir qu'ils ont un nom dans le livre de vie, que Dieu les aime, qu'ils lui appartiennent, etc. La révélation grandit, elle s'approfondit. Ils ont une révélation aussi d'une moisson. Il y a une moisson qui est là. Cette moisson, elle est mûre. Et que le Seigneur veut des ouvriers pour la moisson. Ils en font partie et ils ont un mandat, prier pour que le Seigneur envoie des ouvriers. D'accord ? Donc ça, ce sont les 70. Une révélation plus profonde, la révélation grandit. Le Seigneur révèle de plus en plus qu'est-ce qui est sur son cœur. Et puis on voit un autre groupe de disciples qui se restera encore, les 12. Donc les 12, on les connaît bien. C'était les 12 qui connaissaient Jésus, qui marchaient avec lui jour après jour, qui dormaient avec lui, qui mangeaient avec lui. Jésus leur parlait cœur à cœur. Et la Bible nous dit que quand ils étaient toute la foule des disciples, le Seigneur donnait des paraboles. Et peut-être il y en avait aussi d'autres qui n'étaient pas directement encore disciples, c'est possible. Mais quand il y avait les 12, en particulier, il leur expliquait les paraboles. En particulier. Le Seigneur Jésus donnait un enseignement à toute la foule des disciples. Et puis quand il prenait les 12, il les prenait à part, venez voir. Je vais vous expliquer davantage, je vais plus profond encore. Le Seigneur allait encore plus profond dans la révélation de qui il était. Il partageait le royaume, il révélait le royaume, il révélait le Père. Il y avait une révélation qui s'approfondissait, qui descendait. C'était une révélation de Jésus-Christ lui-même. Il se donnait lui-même par son enseignement, par sa façon de vivre, par la marche, jour après jour, il marchait, il traversait les villages, il traversait les villes. Il s'arrêtait sur les collines. Il s'arrêtait sous les arbres et il parlait. Il discutait, il riait ensemble. Il mangeait. Il faisait des blagues, certainement. Ça me fait penser à Huguette qui raconte que Louis Lombardo, quand il vient, il a toujours une feuille de blague. Si ça se trouve, Jésus, il avait sa feuille de blague aussi. Hein. J'aurais bien aimé les connaître. Ensuite, il y a un grand petit groupe. C'est au milieu même des 12, le Seigneur se construit encore un petit noyau. Il y a les 3. Pierre, Jacques et Jean. La relation se fait plus forte, plus intime. Peut-être plus de confiance. Parce que quand il a dû aller chez la fille de Jairus pour la ressusciter, il en a pris juste 3, Pierre, Jacques et Jean. Il fallait qu'ils se sentent en sécurité. Il fallait que ce soit des gens qui allaient croire comme lui, qui étaient prêts à faire le même chemin que lui. Pierre, Jacques et Jean. Et vous savez que ce sont aussi les 3 qui se sont trouvés sur la montagne de la Transfiguration. Ils ont vu la gloire de Jésus. Jésus les a choisis, leur a révélé sa gloire, qui il était, sa déité, sa divinité. Il leur a montré la gloire. Mais ce sont aussi les 3 qui étaient à Gethsémané. Ils ont vu aussi Jésus dans les pleurs, son humanité, ses angoisses et son désir, sa volonté d'aller jusqu'au bout, d'accepter la volonté du Père, quoi qu'il en coûte, d'être disciple lui-même. Il a été le vrai disciple, celui qui va jusqu'au bout, qui donne sa vie, quoi qu'il n'aurait pas voulu lui-même. Il a accepté l'obéissance jusqu'au bout et les disciples l'ont vu, ces 3-là, Pierre, Jacques, Jean. Et on peut encore aller voir qu'il y en a un particulièrement qui a vécu quelque chose de particulier, Jean. Il s'appelle le disciple bien-aimé. Jean 13, 23, le disciple que Jésus aimait, était couché sur la poitrine de Jésus. Il y a une révélation que Jésus donne à Jean qui est encore plus profonde, qui va encore plus loin. Pourtant, vous notez que ça ne fait pas de lui quelqu'un de premier parmi les autres. Quand on voit les 3, c'est toujours Pierre, Jacques et Jean, ou peut-être des fois Pierre, Jean et Jacques, mais Pierre est toujours devant. Il n'y a pas un ordre particulier. Pierre, c'était quelqu'un qui a reçu une autorité particulière, un mandat particulier. Le Seigneur reconnaît tout le temps. Et quand il a dit, allez dire, quand il est ressuscité, allez dire à Pierre et aux autres. Il y avait quelque chose de particulier entre Pierre et Jésus. Pierre avait une certaine révélation de Jésus et Jean avait une autre. Et il reconnaissait lui-même qu'il était le bien-aimé. Jésus avait s'était révélé dans une relation d'amour particulière, profonde, avec Jean. C'est Jean qui va recevoir le livre de la Révélation, le livre de l'Apocalypse. On pourrait dire que c'était celui qui était subjugué par l'amour de Jésus. Dans Cantique 4, verset 10. On peut le prendre peut-être, Cantique 4, 10. Alors il faut que je dise quelque chose avant de lire ce verset. Jean, c'était quoi? C'était qui? Il avait un frère, il s'appelait Jacques, c'était le frère. Vous savez le surnom qu'ils avaient, tous les deux? Les fils du tonnerre. Vous savez que quand il y a un moment donné, il y a des gens qui, je ne sais plus qui c'est, qui baptisaient d'autres, qui faisaient des disciples, qui baptisaient, et ils sont venus vers Jésus. Jésus, il y en a qui baptisent aussi, comme toi. Est-ce que tu veux qu'on appelle le feu du ciel sur eux? Le fils du tonnerre. C'était un homme fougueux. C'était un homme... Il y avait quelque chose de la puissance en lui. Ce n'était pas une omelette, ce n'était pas quelqu'un qu'on va pouvoir dire taxé d'efféminé sous prétexte qu'il était couché sur la poitrine de Jésus. Je ne veux pas qu'on garde cette image-là. C'était quelqu'un de fort, quelqu'un d'ambitieux, parce qu'il voulait, quand il est venu avec Jacques, « Jésus, on voudrait vraiment être à ta droite et à ta gauche quand tu vas venir dans ton règne. » C'est pas celui qui se met derrière en retrait, qui s'efface, et qui dit « Allez-y, allez-y, allez-y. » Non, 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 on va être devant, on est là, on prend notre place. Et pourtant, c'est celui qui s'est couché sur la poitrine de Jésus. Il n'a pas eu peur en tant qu'homme viril, en tant qu'homme fougueux et passionné, de se mettre aux pieds de Jésus. Cantique 4, 10, que de charme dans ton amour. Tu me ravis le cœur, je prends verset 9. Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée. Tu me ravis le cœur par l'un de tes regards, par l'un des colliers de ton cou. Que de charme dans ton amour, ma sœur, ma fiancée. Comme ton amour vaut mieux que le vin. Combien tes parfums sont plus suaves que tous les aromates. Alors c'est facile pour une femme, pour une sœur de comprendre ce verset qui lui parle. Mais est-ce qu'en tant qu'homme, on est prêt à accepter que Jésus veuille nous dire ça? Est-ce qu'on est prêt à accepter que Jésus nous dise ces paroles à nous? Tu es ma sœur et ma fiancée. Pourquoi? J'avais déjà une fois dit, pourquoi les sœurs accepteraient qu'on les appelle fils? Fils du Dieu vivant. Et que les hommes, on n'accepterait pas que Jésus nous parle d'amour à nous personnellement en tant qu'homme? Jésus nous voit comme des frères et nous voit comme des fiancés. Jésus a cherché toutes les possibilités dans ce qu'il a créé, dans la nature de l'homme, pour révéler la nature et la puissance de l'amour qui est en lui. Tout ce qu'il a pu essayer de mettre comme image, comme parabole, il l'a créé pour nous parler de l'amour qu'il a pour l'homme et la femme, pour l'homme dans son nature entière. Et il nous dit qu'il nous aime profondément, il est amoureux de nous. On ravit son cœur. Quand Jean venait, il savait que Jésus lui dit parler d'amour. Et Jean, tu me ravis le cœur. Jean, quand tu me regardes, mon cœur tremble. Que des charmes dans ton amour, Jean. Comme je suis touché de ton amour. Ton amour vaut mieux que le vin. Ton amour, pour moi, vaut mieux que tout. Est-ce que c'était cantonné juste à Jean? Non. Jean était notre représentant. Tout simplement. Parce que Jésus a une relation d'amour avec chacun de ses disciples, avec chacun de ses fils, avec chacun de ses frères et de ses sœurs. Cette relation d'amour intime, profonde, nous appartient à tous, à chacun. Chacun, nous sommes conviés à cet amour. Vous savez que c'est intéressant parce que on nous dit que Jean était couché. Hein? Parce que quelque part, dans le Moyen-Orient, souvent ils sont sur des lits. Et ça me parle, en Cantique 3, 7, voici la litière de Salomon. La litière de Salomon, le lit, en fait c'est le lit, la couche de Salomon. Autour d'elle, 60 vaillants hommes, des plus vaillants d'Israël. Tous sont armés de l'épée, sont exercés au combat. Chacun porte l'épée sur sa hanche en vue des alertes nocturnes. Le roi Salomon s'est fait un lit de bois du Liban. Il en a fait les colonnes d'argent, le dossier d'or, le siège du pourpre. Au milieu est une broderie œuvre d'amour des filles de Jérusalem. On est les amoureux de Jésus et on est ces vaillants hommes. Cette fois, c'est aux sœurs d'accepter ce titre. Vaillant homme de David. Vaillant homme de Salomon. Salomon, il est sur son lit, sur un lit, dans lequel il est installé, Je pense pas qu'il est fait pour dormir, on verra ça plus tard. Et autour de ce lit de Salomon, il y a 60 vaillants hommes et vaillantes femmes. Église de Christ, tu es autour de Jésus, tu es ces vaillants hommes, ces vaillantes femmes, et vous vous levez dans la puissance de l'Esprit de Christ. Chacun est armé de l'épée, chacun est prêt au combat, chacun porte l'épée sur sa hanche. Et Seigneur, nous bénissons la hanche de Huguette au nom de Jésus. Si la hanche de Huguette est touchée, c'est parce que l'ennemi a peur de l'épée qui est sur sa hanche. Et au nom de Jésus, nous proclamons la guérison de la hanche et que l'épée va être sortie de son fourreau en vue des alertes de la nuit. Parce que la nuit vient et nous devons veiller, nous devons être les gardiens. Et le Seigneur nous a armés, il nous a donné des épées. Il a fait nous des guerriers puissants, prêts pour le combat, en vue des alarmes de la nuit. Mais l'alarme n'est pas pour nous. L'alarme est pour le monde qui n'a pas Christ. Et nous allons nous lever et combattre dans la nuit. L'oreille de Salomon, après vous pouvez regarder tout ce qui reste, comment le Seigneur déclare son règne. C'est un lit de règne. Parce que Jésus, il est couché sur le lit et il nous appelle dans son intimité. Et à partir de ce lit d'intimité, il règne. Il est entouré de vaillants hommes. Ces vaillants hommes, il les attire sur sa poitrine, dans son intimité. Ils sont armés de l'épée, prêts au combat, des bras puissants. Ils sont sculptés dans le marbre, ces hommes. Et viennent sur la poitrine de Jésus, ces hommes et ces femmes, et rentrent dans l'intimité du Fils de Dieu. Et le Seigneur leur parle de sa flamme, de l'amour de son cœur. Puis, comme ses disciples, il les envoie. Marchez comme mes disciples. David avait ses propres vaillants hommes. Quand il a fondé sa troupe, ils se sont joints à lui, il y avait énormément d'hommes qui sont combattus avec lui. Et il avait 30 vaillants hommes qu'il avait choisis au milieu d'eux. Et si vous lisez les histoires qu'ont fait ces vaillants hommes, vous serez estomaqués. Il y en a un qui avait pris une arme, une lance, il en a tué. Dans un passage, c'est marqué 300, dans l'autre, c'est marqué 800. Vous avez déjà tué 800 hommes à la fois? Il y avait une puissance dans les hommes de David. Il avait ordonné, il les avait pris et il en avait fait son conseil secret. Regardez, dans 2 Samuel 23-23, il parle d'un certain homme et il dit, David l'a mis dans son conseil secret. Ce mot m'a arrêté, ce conseil secret. Et je sais que ça fait des années que j'avais dit, Seigneur, je voudrais être dans ton conseil. Vous savez que dans Jérémie 23, 18, on peut le prendre. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir et pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendue? Voici la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite. Ils fondent sur la terre des méchants. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli et exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Qui a assisté au conseil de l'Éternel? Vous savez que le mot conseil, c'est le mot code. Et code a plusieurs sens qui sont reliés les uns aux autres. C'est le mot divan, couche, lit. Qui s'est approché du lit de l'Éternel quand le Seigneur est sur son lit et qu'il parle? Le Seigneur est sur son lit, il est entouré de ses vaillants hommes et il dit des paroles de secret, des paroles qui concernent ses vaillants hommes, ceux qui sont dans son conseil secret. Qui a assisté au conseil de l'Éternel? Qui s'est approché du lit? Qui a posé sa tête sur la poitrine de l'agneau? Qui a écouté le conseil secret qui sortait de la bouche du Très-Haut? Qui a entendu ce qu'il a à dire? Parce qu'il y a la tempête de l'Éternel qui arrive sur la tête des méchants. Mais si l'Église écoute ce que l'Esprit a à dire, elle pourrait être une bénédiction parce que le Seigneur veut guérir et sauver et bénir. Qui est venu écouter le conseil sur le divan? C'est pas les psychologues qui ont inventé le divan. Hein? Ce fameux divan sur lequel on vient et on parle. Le Seigneur avait déjà son divan. Et il t'attire sur son divan. Il dit, viens. Tu n'as pas besoin de parler. Tu peux, quand il y a besoin de soins, il faut y aller. Mais ton premier besoin, c'est d'aller vers le divan de ton Seigneur. Et là, tu lui parles cœur à cœur. Et lui, il te parle cœur à cœur. Et il s'assit à côté de toi sur le divan. Et il te prend dans ses bras. Il te regarde dans les yeux. Et il communique avec toi. Il te communique sa vie. Il te communique sa guérison. Il parle à ton cœur. Il se révèle à toi. Ce mot code veut aussi dire cercle d'amis. Cercle d'amis, cercle de conseillers. C'est aussi conversation familière, intimité avec Dieu, conseil secret, assemblée, compagnie. C'est un mot magnifique. Le Seigneur te dit, viens dans mon conseil. Est-ce que tu veux assister à mon conseil? Est-ce que tu veux qu'on partage ensemble des choses? Et qu'ensuite tu pourras aller partager ma parole. Tu pourras aller dire ce qu'on a dit dans le conseil. Tu pourras connaître mes stratégies. Quelles sont les pensées que j'ai pour ta nation, pour l'Église? Qu'est-ce que je veux pour le monde actuellement? C'est vrai que ma colère et ma tempête viennent sur le monde. Mais mon Église aussi va se lever. Et elle a des miracles et des paroles à apporter de ma part aux nations. Et ce seront ceux qui sauront venir dans l'intimité qui le recevront. Le conseil secret. Dieu partage. Job 15, 8. As-tu reçu les confidences de Dieu? As-tu reçu le conseil de Dieu? C'est le mot code. As-tu reçu le conseil de Dieu? Dieu veut donner son conseil. Et il cherche. Est-ce que tu peux recevoir mon conseil? Est-ce que tu peux recevoir ma pensée? Psaume 25, 14. Le cercle d'amis. L'amitié de l'Éternel, le code de l'Éternel, le conseil secret, le divan du Seigneur, le lit avec les vaillants hommes comme Salomon, la poitrine de Jésus, l'amitié de l'Éternel, la conversation d'amour est pour ceux qui le craignent et son alliance les enseigne. L'amitié de l'Éternel est pour toi, pour ceux qui le craignent. Ézéchiel 13, 9. Ma main sera contre les prophètes dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Parce qu'il est possible qu'on dise des choses fausses si on ne les a pas reçues de la bouche du Seigneur. Ils ne feront pas partie de l'assemblée du code de mon peuple. Ils ne feront pas partie parce qu'ils n'ont pas entendu et ils n'ont pas annoncé la vérité. Et alors ils ne seront pas dans l'assemblée. Ils ne seront pas inscrits dans le livre comme les 70 savaient que leur nom était dans le livre de vie. Mais à partir du moment où quelqu'un n'écoute pas, mais veut parler faussement, il est en danger. Alléluia. Alléluia. Cool, élevé du Karamarakid. Vous savez qu'il y en a un autre qui avait une troupe derrière lui et il est monté en Égypte, Jacob. Jacob, il avait 12 fils, comme Jésus avait 12 disciples. Il les avait formés, il les avait enseignés. Et quand ils sont montés en Égypte, vous savez combien la Bible nous dit qu'ils étaient ? 70 qui se sont installés en Égypte. Et qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Joseph avait entendu le conseil d'en haut. Il avait reçu le conseil du Très-Haut. Il savait que 7 ans de famine arriveraient après 7 ans d'abondance. Et pendant les 7 ans, il avait dit, préparez, mettez du blé de côté, amenez du blé dans les greniers. Et parce qu'il y avait du blé dans les greniers, sa famille a pu être sauvée. Ils sont arrivés en Égypte et Joseph les a mis dans un territoire particulier, le territoire de Goshen. Et ce mot résonne en moi en ce moment fortement, Goshen. Le Seigneur les a mis dans Goshen et les a mis à part. Il leur a donné une terre. Il les a mis en sécurité parce que les temps de dureté, les temps d'épreuve, les temps de la colère du Seigneur, les temps de tempête arrivaient sur le monde, sur la région. Et le Seigneur a voulu sauver son peuple et les a mis à Goshen. Et il avait préparé du blé. Et quand la farine est arrivée, il y a eu du blé pour l'Égypte et il y a eu du blé pour Israël en Goshen. Les deux ont été bénis. Et au bout de 400 ans, Israël s'est multiplié. Il y a eu une multitude qui sont arrivées. Et ça m'a parlé de la multitude que Dieu veut dans son Église. Je dis multitude au nom de Jésus. Au bout des 400 ans, quand le Seigneur a voulu sortir son peuple, l'Égypte a résisté, les plaies sont arrivées, elles ont touché l'Égypte, et certaines ont touché Goshen, mais beaucoup n'ont pas touché Goshen. Goshen a été mis à l'abri. Et il y a une chose que j'ai oublié de dire, quand ils sont arrivés, les 400 ans au départ, vous savez ce qui s'est passé quand il y a eu la famine? Toute l'Égypte a commencé à se vendre. Les gens, ils ont dû vendre tout ce qu'ils avaient pour acheter du blé. Et ils ont commencé ensuite à vendre tout leur bétail à Pharaon. Puis ils se sont vendus eux-mêmes avec leurs terres. Ils sont tous devenus l'esclave de Pharaon. Toutes les terres d'Égypte sont passées des habitants au Pharaon, sauf Goshen. Si vous allez voir, il y a marqué, Israël était dans Goshen et ils avaient leurs possessions, leur bétail, ils avaient tout. Ils n'ont rien vendu. Les temps arrivent qui sont difficiles. L'ennemi, l'État, va vouloir prendre nos propriétés et nos biens, les biens de la nation, parce que les banques sont derrière. Mais dans Goshen, il y a une sécurité. La terre ne sera pas prise pour ceux qui sont dans Goshen. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est Goshen ? C'est être disciple du Seigneur. C'est être rentré dans l'intimité du Seigneur. C'est avoir entendu le conseil, entendre la voix du Seigneur et savoir marcher dans son conseil. Quand je marche de cette façon-là, je suis son disciple. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Amen. Ta terre, le Seigneur va garder ce qui est à toi. Il va mettre une protection dessus. Quand les plaies arriveront, tu seras un petit peu touché. Mais il y aura une protection. Les grosses plaies ne pourront pas te toucher. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci pour Goshen. Alléluia. C'est Jean qui a reçu la révélation des derniers temps. Il a parlé sur les derniers jours. Déjà dans la lettre de Jean, dans 1 Jean, il dit, vous savez que l'Antéchrist vient. Vous savez même qu'il est déjà là. L'Esprit dans l'Antéchrist est déjà là. Et il dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Attachez-vous fortement à Christ. Aimez la vérité. Mais je pense qu'il est un temps important d'écouter ce que Jean a dit. Parce que Jean a des mots pour le temps d'aujourd'hui. Relisons la lettre de Jean. Aimons la vérité. Aimons-nous les uns les autres. Et aussi, je crois que le livre qu'on doit lire actuellement, c'est l'Apocalypse, la Révélation. Heureux celui qui lit ce livre, qui entend les paroles et qui les garde. Parce que ce sera comme du blé qu'on est en train de mettre de côté. C'est le temps de mettre du blé. Pendant cet été, on ne sait pas ce qui va arriver, même en septembre déjà, en 2011 ou 2012. On ne sait pas ce qui va arriver. Ce n'est pas un temps de crainte, mais là, actuellement, c'est un temps de mise du blé de côté. Mettons-nous à part avec le Seigneur. Profitons même des vacances. C'est un temps pour être dans la parole. Vous savez que quand Paul a été transféré de Jérusalem à Rome, il était dans un bateau. Et à un moment donné, ce bateau a coulé. Il y a eu la tempête. Et il y avait du blé dans ce bateau. Et ce blé, ils ont dû le jeter à l'eau. Parce que qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Ils auraient dû le manger et se fortifier. Et c'est André Alexandri qui a écrit un livre là-dessus, où il voit vraiment ce bateau comme les structures de l'Église. Et cette structure de l'Église, un jour, elle peut ne pas tenir debout. On risque de se retrouver sans les structures. Et qu'est-ce qui va se passer alors? On aura besoin de la force du blé qu'on aura préparé, qu'on aura déjà mangé. De cette intimité avec Christ, de cette parole qui habite en nous, qui demeure en nous et nous en lui. On a besoin de fortifier notre relation et notre intimité avec Christ maintenant. C'est l'heure. Et vous savez une chose, la parole de Dieu nous dit que la tentation vient sur le monde entier. Et cette tentation va venir dans l'Église d'abandonner la foi. Vous savez que Jean 6, 66, c'est l'Apocalypse qui parle de 666, et on parle pas souvent des nombres, mais Jean 6, 66, ça fait 666. Et ce Jean 6, 66, ils abandonnèrent Christ, et dès ce jour-là, se retirèrent et ne voulurent plus aller avec lui. Et ce sera une tentation de se retirer. Seigneur, moi je t'ai aimé, je t'ai suivi, je me suis accroché à toi, je t'ai servi, je t'ai été fidèle, j'ai marché avec toi, et maintenant j'ai ces épreuves. Mais non, j'ai ces choses qui sont dures dans ma vie. Mais non, ça, je ne le comprends pas. Pourquoi je vis ça? Pourquoi je vis ces temps difficiles? Seigneur, et on aura la tentation d'abandonner. Parce que cette tentation, elle va devenir forte. Attachons-nous au Seigneur. C'est un temps de dire, Seigneur, je m'attache à toi, je suis ton disciple. Que je sois dans les 70, dans les 12, dans les 3, dans le 1, dans les 500, ça n'a pas l'importe. C'est pas tellement ça qui compte. Ce n'est pas des groupes. C'est pas parce qu'on voit des groupes qui fonctionnent ou là, ce n'est pas ça. C'est spirituel. Je peux être en train de travailler dans mon champ et je suis Jean. Ou je suis Pierre. Ou je suis dans les 3. Je suis dans le conseil secret. Quand je travaille à ma voiture, je peux être dans le conseil secret. Ou je peux aussi être dans les 70 qui vont et qui amènent l'autorité de Christ sur la terre. Où je peux être dans les 12 et je marche avec Jésus, je suis à ses côtés et je l'écoute et j'entends sa voix. Où je suis sur la montagne de la transfiguration. Ça nous appartient à tout un chacun, c'est notre héritage de disciples. Alléluia. Alléluia, papa. Eh bien, Seigneur, je crois que c'est le moment pour nous de pousser le portail du jardin et de venir nous asseoir sur le banc à tes côtés. C'est le moment pour nous de venir et d'avoir un cœur à cœur avec toi. Seigneur, nous te demandons pardon pour la légèreté dans nos vies. Te demandons pardon pour l'incrédulité, pour la désobéissance. Te demandons pardon pour le manque d'amour envers toi et envers nos frères et sœurs. Seigneur, nous te louons parce que tu nous aimes tant. Nous te louons parce que tu nous attires par tes cordages d'amour. Seigneur, merci parce que nous c'est difficile de résister à tes cordages d'amour, à tes liens d'amour. Seigneur, je te loue parce que tu es en train d'envoyer des cordages d'amour à plusieurs d'entre nous. Seigneur, je te loue parce que tu es en train d'attraper au lasso. Tu nous attrapes par tes lasso d'amour. Merci parce que tu nous en serres. C'est pas des cordages qui font mal. Ces cordages ne serrent pas. Ils ne t'attrapent pas pour le coup pour t'étrangler. Ils ne te serrent pas les jambes pour t'empêcher de marcher ou d'avancer. C'est simplement des bandelettes d'amour qui t'attirent vers l'amour de ton sauveur, vers l'amour de ton papa. Laisse-toi aimer. Laisse-toi chérir. Laisse-lui te parler. Assieds-toi et viens assister à son conseil. Viens écouter les paroles de ton Dieu. Assiste à son conseil. Tous ses disciples entendent sa voix, ses brebis entendent sa voix. Seigneur, développe nos oreilles. Ouvre nos oreilles pour que nous écoutions comme écoutent des disciples. C'est l'heure d'écouter. C'est l'heure d'écouter comme écoutent les disciples. Alléluia. Seigneur, tu ouvres nos oreilles. Seigneur, perce nos oreilles comme les esclaves. Ceux qui étaient esclaves dans les maisons de leur maître, un jour ils pouvaient partir. Ils étaient libres de partir. C'est l'heure, vous pouvez partir si vous voulez. Mais si vous voulez rester dans la maison et vraiment marcher avec moi en tant que maître de maison, vous allez vous faire poinçonner l'oreille. Faites-vous poinçonner l'oreille maintenant. Je pense qu'il y a un appel du Seigneur à se faire poinçonner l'oreille. Ça veut dire à ce que nos oreilles s'ouvrent et qu'elles entendent la voix. La voix du berger, la voix du maître et du Seigneur, la voix de l'époux. Les vierges, elles étaient prêtes, elles avaient préparé leur huile, elles avaient préparé, et elles ont entendu la voix de l'époux. L'époux était encore assez loin, il était en dehors de la maison, il était sur le chemin, et elles ont entendu la voix de l'époux, parce que les oreilles étaient ouvertes, elles avaient été poinçonnées. C'est l'heure de te faire poinçonner l'oreille. Crie au Seigneur que ton oreille soit poinçonnée, et que tu entendes la voix de l'époux. Afin que quand l'époux viendra, tu ne seras pas affairé à tant de choses, occupé par tant de soucis et de pensées, que tu n'entendes pas la voix de l'époux. Afin que quand il viendra, ton huile soit prête et ton blé soit là, que tu sois fort pour accomplir son, pour aller avec lui. Alléluia, Seigneur. Poinçonne nos oreilles. Seigneur, nous voulons être tes disciples. Nous voulons t'appartenir en propre. Demeurer dans ta maison, nous ne voulons pas partir. Je crois que tu laisses la porte ouverte. Est-ce que vous ne voulez pas vous en aller, vous aussi, a-t-il dit à ses disciples. Quand il a vu que certains sont partis, il a parlé aux autres. Il a dit, est-ce que vous voulez aussi partir, si vous pouvez, vous pouvez. La porte est ouverte, je ne vous oblige pas, je ne vous force pas. Tu ne seras jamais forcé à me suivre, tu ne seras jamais forcé à marcher avec moi, tu ne seras jamais forcé à être guéri, tu ne seras pas forcé à être mon disciple, tu ne seras pas forcé à être mon fils, si tu veux, tu peux partir. La porte est ouverte. Tu peux, mais je t'aime tant. Alléluia, Jésus. C'est l'heure que nos oreilles soient poinçonnées. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Seigneur vous bénisse.